France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Si l'on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser des rafles un peu partout, des sortes de grandes rafles, en essayant d'attraper le plus d'étrangers en situation irrégulière. Pour ses propos, tenus récemment sur l'antenne de CNews, l'ancien avocat Arnaud Klarsfeld a vu le Conseil d'État, l'institution à laquelle il appartient désormais, engager des poursuites disciplinaires. L'acronyme OQTF a été repris dans tous les médias à propos de cette affaire sans que ceux-ci n'éprouvent visiblement le besoin de préciser ce dont il s'agit. C'est dire la médiatisation dont fait l'objet la question migratoire, y compris dans les détails de ces catégories administratives. Pourtant, par contraste, d'immenses zones d'ombre persistent, comme par exemple ce qui se passe là où précisément se trouvent détenus, on dit retenus, une partie de celles et ceux qui, après avoir été arrêtés, parfois en nombre, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Que se passe-t-il vraiment dans ces CRA anonymes moins connus, ces centres de rétention administrative? On le sait d'autant moins que celles et ceux qui y ont accès sont rares, très rares même. Une jeune sociologue a pu pour la première fois y mener un travail au long cours d'observation. Elle en a conçu une thèse de doctorat et désormais un livre. Elle s'appelle Louise Tassin. Elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Et c'est une autre sociologue, mais devenue performeuse aussi, Karena Coca, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission pour évoquer un spectacle qu'elle co-signe et qu'elle joue régulièrement avec un géographe, Philippe Rekasevich, un spectacle qui nous parle également de ces questions migratoires sur lesquelles elle travaille depuis longtemps. Bonjour Louise Tassin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes post-doctorante actuellement au Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'Université Paris 1, et vous publiez à la découverte dans cette belle collection L'envers des faits, comment on les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa, j'ajouterais en passant par Lesbos, puisque Lampedusa et Lesbos sont les deux situations étrangères que vous abordez. On en parlera un petit peu dans l'émission. Ce ne sont pas les situations les plus centrales de votre travail qui portent sur des centres de rétention, deux qui se situent en région parisienne, surtout l'un d'entre eux dans lequel ce sont les hommes qu'on regroupe, l'autre étant dédié aux femmes. Je le disais, une enquête inédite parce que vous avez pu passer du temps dans ce centre de rétention, dans ces centres de rétention, alors même que c'est très difficile, que seuls ceux qui pourraient y accéder, les parlementaires le font assez peu, qu'on sait ce qui s'y passe à travers évidemment des associations qui peuvent y avoir accès, mais personne n'a fait ce que vous avez fait jusque-là, personne jusque-là ne l'a fait, c'est-à-dire passer beaucoup de temps à observer et à mener des entretiens avec les gens qui y travaille. D'ailleurs, la personne, vous le racontez au début du livre, qui vous accueille, en regardant votre CV, fait la remarque suivante, vous dit « bon, on vous dit maintenant ou on attend pour vous dire ce qu'on pense des sociologues ». Ça, on dit assez long, évidemment, sur une forme d'adversité. Néanmoins, vous avez pu travailler très, très longtemps et sérieusement dans ce lieu. Avant de peut-être revenir sur ces conditions de travail qui étaient les vôtres, j'aimerais qu'on revienne sur la chose la plus centrale dans votre livre. On se dit, après tout, c'est un centre de détention, on appelle ça rétention, c'est un endroit où on enferme des gens, il n'y en a pas tant que ça. On les enferme pour des raisons administratives, ce qui n'est pas le cas des prisons, par exemple. On se dit, on est au cœur de l'État, là, et donc on va avoir affaire à des fonctionnaires. Alors il y a des policiers, mais en fait ce qui frappe d'abord et avant tout dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que les gens qui font tenir ce centre ne sont pas du tout des fonctionnaires, Louise Tassin.
Absolument, et ça a été je pense l'une des mes plus grandes surprises, une des surprises du terrain, et c'est là que on trouve, je trouve, tout le sel de l'ethnographie. C'est précisément qu'on part avec certaines choses en tête et qu'on est surpris par ce qu'on peut trouver quand on a la chance, comme j'ai pu l'avoir, d'accéder à de tels lieux. Et en effet, l'une de mes plus grandes surprises, c'est qu'en arrivant dans ce centre de rétention, j'ai constaté le rôle que jouaient des prestataires de services, à savoir des employés d'entreprises privées qui sont affectés à la gestion quotidienne des étrangers enfermés, c'est-à-dire qu'ils et elles sont chargés, ces agents privés, de gérer la buanderie, la restauration, le nettoyage ou encore l'accueil. Et si je me doutais que, comme dans beaucoup d'institutions publiques, il y a des formes de sous-traitance, etc., qui ont lieu, ma grande surprise a été de constater à quel point ils jouent un rôle central, c'est-à-dire qu'ils occupent une position géographiquement qui est centrale dans le dispositif, puisque l'accueil est une pièce qui se situe au milieu du centre et qui est le seul espace permettant à ce personnel d'être en contact permanent avec les étrangers enfermés. Et donc, les étrangers enfermés comme le personnel du centre doivent systématiquement passer par ce personnel pour accéder... Les étrangers enfermés doivent passer par le personnel pour accéder notamment à des permanences qui ont lieu, qui sont tenues par des intervenants extérieurs au sein du centre, et tout le personnel du centre passe également par ces prestataires privés. Or, ce qui est particulièrement intéressant, pour ne pas dire cocasse, c'est que ces équipes de prestataires privés, elles sont constituées quasi exclusivement par des immigrés et des descendants d'immigrés, c'est-à-dire par des étrangers pour partie, dont certains ont même été sans papier, dont certains ont même fait l'expérience de la clandestinité au cours de leur parcours.
Vous n'en avez pas trouvé qui ont été retenus dans ces centres, mais vous auriez pu au fond.
Exactement, ça n'a pas été le cas, ça aurait pu l'être. J'ai rencontré un homme dont le père avait été enfermé dans ce centre, et c'est proximité de trajectoire, elles étaient frappantes puisque l'une des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui s'appelle Rim par exemple, eh bien elle a été mariée pendant 4 ans avec un sans-papier et elle a rencontré au sein du centre de rétention son boucher, le père d'un ami de sa fille et son propre cousin qu'elle a retrouvé dans le centre de rétention. Et cette proximité de trajectoire, ce type de rencontre, c'est pas un épiphénomène, c'est pas un hasard en fait. Ça dit quelque chose, et c'est là que je trouve ça particulièrement intéressant, ça dit quelque chose en fait des contradictions des politiques migratoires nationales et européennes, ça dit quelque chose des apories de ces politiques, puisque la lutte contre l'immigration dite clandestine est érigée en indice de la fermeté des États, elle occupe une place centrale sur la scène politique et médiatique. Et pourtant, on se rend compte qu'au sein même d'une institution étatique qui a été historiquement construite comme une prérogative régalienne, parce que le contrôle des frontières est aujourd'hui relève par excellence du domaine de la souveraineté des États, et bien au sein même de ces institutions, l'État recourt à une main-d'œuvre précaire et immigrée, et donc à cette main-d'œuvre, autrement dit corvéable, que constituent les étrangers.
Cette main-d'œuvre centrale, disiez-vous, à propos de ce lieu. En commençant votre livre, on s'imagine au fond qu'on va avoir un premier chapitre qui leur est consacré, puis qu'après, il y en a qui seront consacrés aux étrangers ou aux policiers. Et non, en fait, c'est eux qui demeurent absolument centraux. Non pas que vous ne parliez pas des étrangers qui se retrouvent dans ce centre, mais non pas que vous ne parliez pas des policiers, on va y revenir. Mais au fond, vous n'avez pas décidé, et c'est toute la force de ce livre, je trouve, de le construire comme ça, autour des différents métiers ou des différentes fonctions, Louis Tassin.
Absolument. Et si ça s'est construit comme ça, c'est aussi parce que, justement, il me semblait que d'aller regarder, d'aller prendre au sérieux, d'aller écouter ces personnes, ces employés des prestataires de services qui travaillent en rétention, cela permettait de penser autrement cette question du contrôle des frontières et des centres de rétention. On aurait pu s'attendre à ce que je parle comme des atteintes aux droits, par exemple, qui ont lieu et dont les centres de rétention les centres de rétention sont des lieux attestés, disons, d'atteinte aux droits. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait en travaillant sur les centres de rétention, cette question des atteintes aux droits, elle a été largement documentée par les acteurs associatifs ainsi que par des autorités indépendantes comme le défenseur des droits ou encore le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de me demander aujourd'hui, dans ces lieux qui sont tout à fait normalisés et banalisés, de m'interroger sur les conditions d'acceptabilité et de possibilité de ces violences. Et donc, c'est pour ça que je voulais aller m'intéresser aux petites mains du contrôle migratoire et d'aller regarder, en fait, ces prestataires privés dont je n'avais pas présumé ni l'ampleur du rôle, ni même l'existence. Eh bien, ce que ça m'a permis de montrer en regardant leur trajectoire, c'était l'inanité de la distinction entre étrangers en situation régulière et étrangers sans papier. Cette distinction qu'on retrouve dans les débats publics, vous avez évoqué les sorties d'Arnaud Klarsfeld, qui lui parle même des OQTF en substantivant
cette notion. Au lieu de dire les gens qui font l'objet d'une OQTF, d'une obligation à quitter le territoire français. En fait, il les substantise, ce sont eux qui deviennent des OQTF, en fait.
Voilà, et les traites d'asociaux, et ce que ça cristallise, en fait, cette sortie, c'est l'amalgame très fréquent sur la scène politique et médiatique entre étrangers en situation irrégulière et délinquants, voire criminels. Or, bon, d'un point de vue factuel, quand on regarde les OQTF, il y a seulement 2% des OQTF qui sont liés, qui sont le résultat d'une condamnation pénale. Donc, autant dire que c'est tout à fait marginal, parce que qu'est-ce que c'est une OQTF ? C'est simplement un document qui est délivré à des personnes, notamment quand un titre de séjour n'a pas été renouvelé, ou alors quand une personne est déboutée du droit d'asile. Bref, autant dire que...
C'est des gens qui n'ont plus des papiers qui leur permettent de rester en règle sur le territoire national, même s'ils ont pu y entrer parfaitement en règle dans la majorité des cas, par ailleurs.
Voilà. Et en fait, en regardant les histoires de Rim, d'Aïcha, de Idir, qui sont toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui travaillent en rétention, en fait, regarder leur trajectoire, c'est montrer justement à quel point les personnes peuvent passer d'un statut à l'autre, c'est-à-dire que tous ces acteurs-là, toutes ces personnes-là sont entrées légalement sur les territoires. À un moment donné, pour X ou Y raison, leur situation administrative ne correspondait plus à la législation en vigueur. Soit qu'on change de statut, par exemple, on passe du statut étudiant au statut de travailleur et il faut répondre à un certain nombre de critères qui sont très difficiles à tous cocher, réunir, voilà. Et d'autres, au contraire, étaient étudiants étrangers, n'avaient pas encore été sans papier, mais par contre risquaient de le devenir. Je pense à un homme qui s'appelle Jesse, qui, quand je le rencontre dans le centre, me dit « Bon, bah là, j'ai rendez-vous à la préfecture, j'ai juste un récépissé. » Et voilà, en riant de façon nerveuse, se demandant s'il n'allait pas finir, lui aussi, par passer de l'autre côté. Et c'est vrai que pour moi, voilà, je dirais qu'un des objectifs de ce livre, c'est vraiment d'aller remettre en question cet amalgame entre étrangers en situation irrégulière et délinquants, mais c'est aussi plus largement d'aller questionner la banalisation du recours à l'enfermement pour un motif administratif. Vous l'avez bien dit en introduction, les centres de rétention sont destinés à organiser la reconduite à la frontière des étrangers sans titre de séjour, et donc ils ne relèvent du régime pénal. Ils ne visent pas à sanctionner un délit ou une infraction. Et ça, c'est un régime qui est dérogatoire à l'ordre commun, puisque seuls les étrangers sont dans une situation comme celle-ci, de pouvoir être enfermé pour un motif uniquement administratif. Et voilà, moi j'ai eu donc la chance de pouvoir pénétrer dans ces lieux, d'y mener mes enquêtes. Et il me semble que ce que j'espère faire voilà, avec ce livre, c'est donc d'aller déconstruire ce qui est donné comme une évidence, qui est ce recours à l'enfermement des étrangers, cette banalisation des centres de rétention administrative.
Vous le faites en relatant des histoires singulières, en relatant des propos que des gens vous tiennent lors d'entretiens ou des propos que vous entendez, tout simplement, et en montrant le caractère totalement arbitraire de la plupart de ces situations. Je pense à l'instant à ce monsieur d'origine chinoise qui se trouve en France depuis 10 ans, dont vous parlez, et qui atteint dans ce centre la limite, le jour limite, le 45e jour à l'issue de la période de laquelle il doit être expulsé. Et cet homme se mutile pour ne pas être amené à l'aéroport. Une histoire comme celle-là donne à voir ce caractère parfaitement arbitraire, puisque ça fait 10 ans qu'il vit en France, qu'il y travaille, que probablement il y cotise socialement, qu'il a un certain nombre de droits sociaux qui sont attribués à son activité, et que néanmoins, en quelques heures, il pourrait se retrouver dans un tout autre monde, dans une toute autre situation. Qu'est-ce qui se passe dans ce centre à l'occasion d'une histoire comme celle-là que vous avez pu observer, Louis Tassin ?
Alors ça, c'était en plus assez fort parce que c'est une histoire qui est arrivée alors que j'étais dans le centre depuis quelques jours à peine. Alors que j'étais là depuis peu, mais en fait, ce sont des situations qui sont très fréquentes. Les centres de rétention sont des lieux émaillés de tensions parce qu'elles reposent sur la mise à l'écart, sur l'enfermement d'une population qui est donc destinée à l'expulsion. Et régulièrement, effectivement, il y a des actes de détresse, des tentatives de suicide qui parfois aboutissent, parfois pas. Mais voilà, le fait est que ces lieux ces lieux ont des conséquences délétères sur la santé mentale et physique des étrangers qui y sont enfermés. Et là où, me semble-t-il, c'est important d'aller documenter ces espaces, c'est qu'en fait, on a parfois tendance à renvoyer les questions des politiques migratoires à ce qui se joue à nos frontières, aux frontières de l'Europe. Et quand on travaille comme ça sur un centre de rétention, on se rend compte que ça nous touche toutes et tous. C'est-à-dire que...
Un centre qui peut être tout près de chez soi.
Exactement.
Il y en a 25 officiels en France, c'est ça. Et en fait, il y en a le double si on compte des centres
locaux,
qui n'ont pas la
voilà.
même l'appellation, mais en fait qui servent à la même chose.
Oui, des locaux de rétention administrative où là, les gens peuvent être retenus sur des périodes plus courtes. Mais ces centres de rétention, ils sont disséminés sur tout le territoire et ils sont souvent tenus à l'abri des regards, soit qu'ils soient installés dans les périphéries, soit qu'ils soient masqués derrière des murs au sein même de la ville. Mais il y en a, voilà, en différents endroits, partout, si je puis dire, autour de nous.
Il peut y en avoir un en face d'un champ de course qui accueille 35 000 personnes pour un grand prix hippique,
par exemple. Effectivement, c'est le cas du centre de rétention de Vincennes qui est installé en face d'un hippodrome. Et bah, si vous prenez cet exemple, ce centre de rétention, rien n'indique sa présence, par exemple, depuis la station de RER. Donc effectivement, il y a cette idée que ces lieux sont tenus dans l'opacité. Ils sont tenus dans l'opacité. Or, et c'est un peu ce que je voulais aussi questionner avec le titre de cet ouvrage, « Comme on les enferme », il y a un flou choisi sur ce « on » et sur ce « les ». C'est-à-dire que l'idée, c'est de remettre en question la distinction entre le « on » et le « et », on le voit bien, comme je le disais tout à l'heure, avec ces étrangers ou ces descendants d'immigrés qui travaillent en rétention. Mais il y a aussi ce flou sur le « on ». Qui est ce « on » Ce « on », c'est parce que je m'intéresse aux travailleurs et aux travailleuses des centres de rétention, mais aussi parce que je me demande, et j'ai envie de voilà, questionner plus largement, la question de comment nos sociétés européennes se positionnent face à ces questions de l'accueil ou au contraire du contrôle des étrangers.
Il y a un flou dans le « comme » aussi, « comme on les enferme », c'est-à-dire comment concrètement on les maintient dans ce centre et c'est pas uniquement comme on pourrait le croire à travers le pouvoir de coercition de la police avec la violence, elle est là. Mais il y a une autre scène très forte dans votre livre, il y en a beaucoup, une autre qui donne à voir une possible tentative de suicide là encore, qui permet de comprendre l'articulation des rôles et du travail. Un homme vient d'apprendre qu'il risque d'être expulsé, non pas vers son pays d'origine, mais vers un autre pays européen. Il se présente à cet accueil que vous avez observé. On voit d'ailleurs la compétence administrative qu'au fil du temps, ces personnes qui ne sont pas normalement là pour ça finissent par acquérir, sont capables, on va y revenir, de traduire dans tous les sens du terme ce langage administratif, à la fois traduire dans d'autres langues, mais aussi traduire ces catégories de manière plus ordinaire. Ces personnes qui sont pas là pour assurer la sécurité sonnent l'alerte, se rendent compte que cet homme peut-être va se suicider. Et là, on s'aperçoit que tout autour, il y a comme une présence, c'est la police, précisément, les policiers qu'on associe plus immédiatement à ces centres, mais qui sont comme une sorte de contrôle du contrôle, en quelque sorte, comme en deuxième rideau. C'est ce qu'on voit très bien dans votre travail, Louis Tassin.
Oui, alors effectivement, l'épisode que vous décrivez est assez emblématique. C'est une scène à laquelle j'ai assisté alors que j'étais à l'accueil auprès de Rim, que j'évoquais tout à l'heure, et qui, le matin même, avait discuté avec un homme qui s'appelle, que j'ai appelé Monsieur Alaoui. Et cet homme était effectivement très troublé parce qu'il venait d'apprendre qu'il serait peut-être expulsé dans son pays d'origine, alors même qu'il avait eu des papiers en Italie. Bref, voilà, situation compliquée. On continue à discuter. Elle fait ce qu'elle fait tous les jours, c'est-à-dire qu'elle commence à distribuer les tickets repas, elle répond aux différentes sollicitations des étrangers enfermés. Et d'un coup, soudainement, elle se lève. Elle s'approche d'un petit hublot qui est au sein de cet accueil, mais qui est d'habitude recouvert de papier. Elle soulève les papiers. Et là, son corps se crispe et elle se met à hurler. « Il est en train de se pendre !» Donc, vous imaginez l'effroi généralisé. Il y avait quelques policiers qui étaient présents qui accourent. Bon, très vite, ils rentrent dans le centre et ils parviennent à dénouer effectivement le drap que l'homme s'était mis autour du cou. Et ce qui a été assez étonnant aussi, c'est qu'une fois que les policiers étaient intervenus, en fait, ils ont laissé cet homme, monsieur Alaoui, revenir près du guichet d'accueil que tenait Rim. Et c'est Rim qui a commencé à lui parler et qui, en fait, est parvenu à le rassurer, à lui expliquer certaines choses, notamment en parlant arabe, parce qu'elle parle arabe. Et c'était aussi le cas de cet homme. Et ça, c'est effectivement un enjeu aussi que je développe pas mal dans l'ouvrage, puisque l'arabe est en fait le fait de parler cette langue dans ce centre dans lequel il n'y a quasiment aucun interprète, sinon du côté des acteurs associatifs, bah, ça permet de dénouer beaucoup de situations. Et en même temps, c'est aussi ce qui jette le soupçon sur ces prestataires de services qui sont parfois, par la police, associés aux étrangers enfermés. Et ce que cristallise cet événement, cette scène, c'est plusieurs choses, mais c'est effectivement le rôle central, on le voit, que jouent ces prestataires de services, que peuvent jouer en tout cas, parce qu'il n'y a rien de systématique, mais ils peuvent jouer un rôle central, puisque en fait, au-delà de ces prestations de services, de ces tâches subalternes, autrement dit, des basses besognes, disons,
du
de la
ménage,
gestion, du
la
ménage,
cuisine,
voilà. Jusqu'... En fait, ce que je montre, c'est que derrière tout ce sale boulot, entre guillemets, qui a trait à la gestion des corps et des personnes, eh bien, en fait, ils jouent un rôle qui est beaucoup plus large que ça, qui déborde largement leur fiche de poste. D'une part, parce qu'ils servent d'intermédiaires. Et donc, c'est eux, en fait, qui permettent l'accès aux permanences, notamment, et donc à la mise en œuvre de leurs droits. Ils servent également d'interprètes, comme je viens de l'évoquer, de façon informelle, mais ce qui, bien sûr, voilà, donne lieu à des situations parfois problématiques, puisque ces interprétations, ces traductions sont aléatoires et dépendent des personnes. Voilà. Et ils jouent également un rôle, et ça, c'est ce qu'on voit vraiment précisément avec cette scène. Ils jouent un rôle d'auxiliaire de police, en fait. Ils jouent un rôle d'auxiliaire de police parce que, en fait, comme ce sont les seuls, les principaux à être au contact permanent des étrangers enfermés, eh bien, en fait, ils les connaissent. Il y a une proximité. Et donc, ils ne sont pas déconnectés de leur vie quotidienne. Et c'est parce que Rim a discuté avec cet homme, parce qu'elle le connaît, qu'en le voyant passer dans la salle, elle se dit, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et qu'elle va jusqu'à ce hublot.
Et finalement, les seuls endroits où ils sont pas, c'est dans les fourgons qui amènent ces étrangers vers les aéroports, des fourgons dans lesquels il arrive que ces étrangers meurent. Vous racontez l'une de ces histoires, peut-être précisément parce que il n'y a pas d'autres types de personnel pour mettre de l'huile dans les rouages, en quelque sorte.
Peut-être. Bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu difficile à dire. Je pense que c'est pas que ça non plus, mais effectivement, ce qui est compliqué, c'est qu'ils jouent un rôle qui est très ambivalent, en fait, ces prestataires de services, puisque à la fois, effectivement, ils mettent de l'huile dans les rouages, c'est-à-dire qu'ils participent au bon fonctionnement du centre, mais ils participent aussi à la prévention des désordres, parce que en opérant un travail comme celui de Rim, là, qui consiste à repérer des situations à risque et où, en rassurant les personnes, ils désamorcent aussi les tensions. Et donc, ça participe en fait à ce bon fonctionnement du dispositif, ce qui fait qu'on opère finalement, enfin s'opère finalement une forme de transfert informel, de prérogatives qui sont plutôt traditionnellement régaliennes, sans qu'il n'en ait pour autant ni les moyens ni la formation. Et cette sous-traitance, elle met aussi à distance les policiers, ce que vous commenciez à évoquer tout à l'heure.
Au fond, on voit là le caractère vraiment précieux d'une observation sociologique rare à laquelle vous avez pu parvenir avec cette autorisation à travailler dans ce centre. Parce qu'au fond, on aurait pu imaginer tout autre chose. Vous avez rencontré une personne qui a été chargée, au fond, d'ouvrir ces centres de rétention aux sociétés privées. Et si il l'a fait, et si les pouvoirs publics l'ont fait, c'est pas du tout en ayant en tête ce que vous avez effectivement observé. C'est tout simplement en ayant en tête la réduction des coûts. Donc une analyse de politique publique ou une analyse d'économiste aurait pu nous dire, voilà, ça se fait comme ça parce que ça a été décidé ainsi pour économiser de l'argent. Mais en fait, dans la réalité, peut-être que c'est la raison pour laquelle ça a été mis en œuvre, mais dans la réalité, c'est pas comme ça que les relations sociales s'opèrent. Et ça, c'est extrêmement précieux à observer. D'ailleurs, je ne sais pas dans quelle mesure les acteurs publics vont apprendre des choses en lisant votre livre.
Je pense un peu, mais c'est vrai que je trouve que ça dit quelque chose effectivement de façon plus large sur l'action publique, sur l'externalisation de domaines traditionnellement régaliens. Et il me semble que ce à quoi ça invite pour saisir plus largement les transformations de l'action publique, c'est en effet également de prêter attention au rôle de ces travailleurs subalternes, affectés à des tâches qui, a priori, n'ont rien de régalien, et de voir comment normalement, ce qu'on délègue, c'est comme dans les entreprises, il y a le cœur de métier qui reste dans l'entreprise et les domaines périphériques qui sont externalisés. Et en fait, là, à travers mon travail, je crois que ce que ça montre, c'est qu'en externalisant des tâches qui, a priori, sont périphériques, on peut venir toucher, en fait, au cœur de l'État.
Je pense que par analogie, beaucoup de gens peut-être reconnaîtront des situations professionnelles qui n'ont rien à voir avec la rétention des étrangers, mais qui fonctionnent un peu selon le même schéma. Je le disais en commençant, vous vous êtes intéressé principalement à ces deux centres, et notamment à l'un d'entre eux en France, mais vous êtes également allé voir ailleurs, à l'étranger, dans des territoires assez différents, parce qu'il s'agit d'îles, donc on n'est pas à proximité de la capitale de la France, par exemple, ou d'autres grandes villes en France. Vous êtes allé voir en Grèce et en Italie. Qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces situations à l'étranger que vous avez pu observer, Louis Tassin ?
Alors, pour moi, déjà, c'était très important d'avoir une dimension européenne, parce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui les politiques migratoires françaises sans prendre en compte cette perspective. Et ce qu'il y a de commun et de différent, en fait, ce que je trouvais intéressant avec ces deux cas de Lesbos et de Lampedusa, c'est qu'on y observe une autre forme d'externalisation, qui est une forme de délégation de l'action publique à la population locale. Dans le cas de Lampedusa, c'est une délégation assumée, puisque la totalité de la gestion des centres de rétention et plus largement des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile est confié à des acteurs qu'on appelle en Italie du tiers secteur, c'est-à-dire que ce sont des entreprises soit à but lucratif, soit à but non lucratif, un peu comme l'économie sociale et solidaire en France. Et la situation que j'ai observée à Lesbos, là, c'était encore différent parce que c'était un moment où, en fait, à Lesbos, il y avait de telles défaillances étatiques en termes de prise en charge des étrangers que finalement, c'était les citoyens, des acteurs locaux, des militants qui étaient de facto amenés à prendre en charge ces situations. Donc voilà, ce sont des situations bien différentes, mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, en fait. Donc des situations bien différentes, notamment parce que, par rapport à ce que j'ai pu observer sur le fait qu'en France, ces prestataires privés sont tous immigrés ou d'origine immigrée, c'était pas du tout le cas dans ce que j'ai pu observer en Italie et en Grèce. En revanche, il y a plusieurs grandes dynamiques, il y a plusieurs tendances lourdes qu'on retrouve. Il y a évidemment donc ce que j'ai déjà évoqué, cette question de l'externalisation, mais il y a aussi d'autres éléments qui lui sont liés, et notamment la question de l'externalisation des responsabilités. Et là-dessus, le cas de Lampedusa est vraiment emblématique parce que le centre de rétention a été confié, sa gestion a été confiée à différentes coopératives, différentes organisations au fil des années. Et en fait, quand on a une perspective un peu historique, on se rend compte que cette sous-traitance, elle a vraiment permis à l'État de soit valoriser cette gestion comme étant une gestion dite humanitaire à un moment où Lampedusa a été construite comme un modèle d'accueil, alors même qu'elle était gérée par une coopérative sociale étiquetée de gauche, etc. Mais lorsque cette même coopérative s'est retrouvée face à des situations compliquées, notamment en 2011, quand Silvio Berlusconi a décidé d'arrêter, de stopper les transferts de migrants depuis Lille, alors même que beaucoup de personnes arrivaient de Tunisie, eh bien ça a créé une image d'invasion sur l'île et le centre s'est vu complètement dépassé. Il y a eu d'autres cas, par exemple en 2013, où des images ont fait le tour de l'Italie et ont même été diffusées jusqu'en Europe parce que des hommes avaient été filmés dans la cour du centre en plein décembre, nus, les uns à la file des autres, aspergés à coups de jets puissants d'un produit anti-gal. Et donc ça a suscité un scandale public, notamment parce qu'il y avait aussi cette symbolique forte d'hommes nus dans un camp, etc. Donc bon, voilà, tout le monde a crié au scandale. Mais c'était un peu en quelque sorte des larmes de crocodile, parce que c'était des problèmes qui étaient connus de longue date et qui étaient liés à des difficultés d'ordre structurel, notamment en rapport avec la surpopulation du centre. Et une fois de plus, là, c'est la coopérative, disons, qui a été désignée comme responsable, qui a été licenciée. Et donc, on voit bien comment est-ce que ces sous-traitants peuvent servir aussi de soupape, de fusible, de variable d'ajustement, autrement dit, pour aussi externaliser les responsabilités de l'État dans ces lieux qui prête à bien des égards aux atteintes aux droits.
c'est des questions éthiques qui doivent se poser aussi du côté des associations qui se trouvent impliquées dans ces lieux parce qu'elles ont accès, qu'elles peuvent aller voir ce qui s'y passe. Et la question se pose de savoir si quand on accepte de faire ça, et surtout quand on accepte de le faire dans des situations de monopole, d'accès par exemple, ça ne pose pas des problèmes. Est-ce qu'on ne se retrouve pas enrôlé? J'imagine que c'est des discussions difficiles, des choix qui ne sont pas évidents à faire.
Tout à fait. Et là, pour le coup, la perspective comparative est aussi très intéressante, notamment entre la France et la Grèce, parce que la Grèce présente quant à elle une configuration encore différente, qui est que la situation du travail social et, enfin, en gros, la marchandisation accrue du travail social et la précarité généralisée dans le contexte de crise font que les militants sont beaucoup plus facilement amenés à aller travailler dans ces lieux d'enfermement, ce qui effectivement fait davantage débat en France avec l'idée de est-ce qu'on peut être un grain de sable dans la machine ou est-ce qu'il faut rester de l'extérieur pour contester l'existence et le fonctionnement de ces centres de rétention. Et ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté effectivement en Grèce, c'était à quel point, en fait, à la fois face à la précarisation générale du marché du travail et face à ces conditions d'enfermement qui, pour le coup, sont unanimement décriées, dégradées depuis de longues décennies, la question ne se posait pas et en fait, il faut y aller et il faut aller voir ce qui se passe et il faut dire ce qui se passe. Et donc, ce que j'ai effectivement pu observer en Grèce, c'était ça, c'était la manière dont des collectifs militants allaient s'emparer de cette cause pour essayer de la critiquer, de la contester et de l'intérieur, parce que c'était la condition pour ensuite pouvoir porter une parole critique à l'extérieur et visibiliser dans l'espace public la question de l'enfermement des étrangers.
Il faut y aller, et une des manières d'y aller, c'est de lire votre livre, Loustassin, comment on les enferme dans les centres de rétention de Paris à Lampedusa. Il paraît aux éditions La Découverte. On continue d'en parler dans la deuxième partie de l'émission avec Karen Akoka qui nous rejoint. Mais c'est après un morceau que Beck va publier dans quelques jours. Il a décidé de réunir dans un mini-album des reprises qu'il a fait au fil des années, qui tout ont à voir avec l'amour. Ça sort le 14 février, et ça, c'est une reprise qui était juste là, totalement inédite, de feu Daniel Johnston, The Love Will Find You in the End.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Step out into the light, the light. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. True love will find you. Love will find you in the end.
On parle de migration, de rétention, aujourd'hui la suite dans les idées à propos du livre de Loustassin, Comment on les enferme, et à propos d'un spectacle, d'une performance cartographiée plus exactement, co-signée Karen Akoka et Philippe Rekasevich. Karen Akoka est sociologue, elle est avec nous autour de la table.
Bonjour.
Bonjour. Et Philippe Rekasevich, lui, est géographe. Vous avez travaillé ensemble pour produire cette performance cartographiée, ce spectacle que j'ai eu la chance de voir en ouverture d'ouverture du festival Un état du monde au Forum des images. Je crois que vous avez eu l'occasion de le donner plusieurs fois, ce spectacle. J'espère que ça va continuer longtemps, parce que c'est une autre manière d'écrire les sciences sociales. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite dérogation à la règle qui consiste en deuxième partie à ne pas convier de chercheurs ou de chercheuses. Mais là, maintenant, vous êtes artiste. Au fond, c'est vous qui êtes sur scène, Karen Akoka. Vous étiez venue dans cette émission pour parler de votre livre « L'asile et l'exil » sur la distinction réfugiés-migrants. Un livre qui nourrit d'ailleurs ce spectacle, puisqu'un chapitre est vraiment consacré à cette question de la distinction entre les deux. Mais plus largement, qu'est-ce qui vous a conduit avec Philippe Rekasevich à imaginer cette autre manière de partager avec le public des réflexions, les vôtres, celles de vos collègues chercheuses et chercheurs?
Je pense qu'avec Philippe, on avait deux, j'appellerais ça des besoins impérieux ou des frustrations communes. La première, c'est ce fossé énorme entre ce que produisent les sciences sociales sur les questions migratoires et ce qui circule dans l'espace public, l'espace médiatique et incarné dans les politiques publiques. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, hein, mais en gros, ce que montre depuis des décennies, nous, avec tellement d'autres collègues, c'est que l'immigration, c'est quelque chose de banal, marginal. 97% de la population reste dans son pays, stable. Et c'est l'inverse qui est dit, hein, dans l'espace public qui donne lieu à des politiques publiques qui sont mortifères au sens de pas seulement de pouvoir de vie et de mort sur les gens, hein, mais de vie abîmée et aussi de coûts économiques exorbitants et puis d'inefficacité. Et quand je dis inefficacité, je veux dire parce qu'il y a rien qui en soit efficace ou pas efficace, mais du point de vue des objectifs que se fixent ces politiques publiques. Donc ça, c'est la première frustration, raison, besoin impérieux. On avait besoin de ramener, comme l'ont fait beaucoup, beaucoup de collègues avant nous.
Réduire le hiatus, au fond.
Oui. Et là, je voudrais juste dire que là, on s'inscrit dans les travaux d'énormément de collègues et on a utilisé les travaux d'énormément de collègues. Et il y a beaucoup de plus en plus d'initiatives comme celle-là qui se développent. Et donc voilà, là on forme un collectif avec...
Par exemple, vous avez des collègues qui ont formé le GIEM sur le modèle du GIEC, le groupe d'information sur l'immigration, qui partent du même constat de hiatus entre la réalité telle qu'elle est donnée à voir par la recherche et puis le débat public sur ces questions.
Oui,
mais qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce mode d'écriture qui vous fait, par exemple, remplacer les habituels diagrammes qu'on peut lire dans des textes par des boîtes en carton, mais qui permettent de voir autrement, de sentir autrement des réalités objectivées par la recherche, Karen Akoka?
Là, merci de poser la question comme ça, parce que j'avais dit qu'il y avait deux besoins impérieux, donc on tombe sur le deuxième, qui est ce besoin de pluraliser les sciences sociales dans sa forme. Dans ces formes, donc d'avoir d'autres formes d'écriture, d'avoir des formes sensibles à l'intérieur de le sculptage de cette science, et puis de aussi mettre au centre la question des affects et des émotions. Et là encore, on s'inscrit dans vraiment toute une lignée de travaux qui se développe beaucoup sur ces questions-là. Donc Pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça? Et puis on pourra revenir sur comment on le fait après. Alors évidemment, il y a d'abord un besoin de démocratiser le savoir, parce que en prenant d'autres formes, il peut circuler auprès de personnes qui ne sont pas forcément...
En voyant votre spectacle, on se dit, il devrait, enfin je sais pas, toutes les classes de terminale par exemple, devraient voir ce spectacle.
En tout cas, l'ambition, c'est de parler un autre langage que le langage qui s'adresse toujours aux mêmes. Il y a aussi une ambition plus politique. Et cette ambition plus politique, elle est liée à la question de la mobilisation des affects, et surtout sur les questions migratoires. Et parce qu'aujourd'hui, les affects sur les questions migratoires, c'est des affects, pour reprendre Spinoza, hein, des affects tristes. La culpabilité, la haine, la peur, l'angoisse. Et une des questions au centre de cette réflexion sur les émotions et les affects dans les sciences sociales, c'est que, pour reprendre encore Spinoza, le pouvoir d'agir est lié au pouvoir d'être affecté. Et donc, comment est-ce qu'on
développe ce pouvoir d'agir des uns, des autres et de nous-mêmes, hein, parce que ça inclut nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en mobilisant ces formes-là, nous aussi, on rentre plus dans l'action. Et donc, comment est-ce que, en mobilisant d'autres types d'affects et d'autres types d'émotions, et qui ne sont pas de la manipulation des sentiments, hein, vraiment très loin de là, et un des principes forts de notre performance, c'est aucun misérabilisme. J'espère qu'il y en a eu à aucun moment, vous me direz. Mais en tout cas, en mobilisant ces sentiments de la joie de découvrir, la curiosité d'apprendre, le gai savoir, l'étonnement, et ben on peut aussi mobiliser une puissance d'agir collective qui en fait est désactivée, paralysée hein, par les affects tristes qui sont dominants aujourd'hui. Donc il y a aussi dans la question des formes sensibles, des écritures, il y a la question de la démocratisation, là, il y a la question de la dimension politique et il y a une question scientifique aussi parce que ces questions-là de cette dichotomie entre émotion et raison, etc. C'est des questions depuis longtemps qui sont travaillées aussi par les sciences sociales et qu'on avait aussi envie de continuer à explorer et qui transforment les sciences sociales.
Il y a un matériau scientifique qui est le produit de l'enquête. À partir de là, il y a la réflexion sur la meilleure manière de le partager, ou les meilleures manières. Parce que, après tout, le livre de Louise Tassin dont on a parlé aujourd'hui, il est issu d'une thèse que je n'ai pas lue, et j'imagine que cette thèse n'est pas écrite de la même manière que son livre. Parce que son livre, il vise un autre public, plus large, que celui qui a lu la thèse, pour lui décerner le titre de docteur, pour lui attribuer ensuite des qualifications professionnelles et des postes. Donc là, l'enjeu est différent, Louise Tassin. Vous avez fait ce travail aussi?
Absolument, et ça a été un gros travail. Et plus important que ce que je ne l'aurais imaginé. Mais en fait, je suis très heureuse de l'avoir fait. Et pour cette raison, je suis vraiment ravie en fait, d'avoir eu l'opportunité de publier dans cette collection L'Envers des Faits, à la Découverte, qui est vraiment une collection qui précisément fait la part belle aux enquêtes aux sciences sociales, mais avec cet objectif d'essayer d'atteindre un public le plus large possible en dehors des seuls sentiers universitaires. Et effectivement, ça demande un travail de réécriture. Et alors moi, j'ai toujours aimé écrire. Dans ma thèse, chaque chapitre commençait par des scénettes ethnographiques.
Donc, je
pensais que ça allait être facile. Oui. Et en fait, non, parce qu'il y a un vrai travail de passation de ce qu'on apporte ou ce qu'on essaye d'apporter avec les sciences sociales. Et donc, il y a eu un gros travail. Et j'en profite pour remercier Paul Pasquali et Fabien Truong, qui sont les directeurs de collection et qui font un énorme travail d'accompagnement avec tous les auteurs et toutes les autrices pour précisément essayer de trouver cette plume narrative, d'essayer d'incarner les personnes qui deviennent presque des personnages et de décrire de façon aussi ethnographique que possible et aussi précise et dans le détail ce qu'on a pu observer. Et je pense que c'est aussi une des manières de faire ressurgir l'affect. En tout cas, c'est ce que j'espère pour mon livre.
C'est certain. Karine Coca, vous aussi, vous avez, avec Philippe Rekasiewicz, fait un énorme travail d'écriture. Pas d'écriture au sens dont Louise Tassin vient de parler, c'est-à-dire linéaire, littéraire, pourrait-on dire. Vous avez fait un travail d'écriture qui est plus fragmenté, puisque c'est une performance cartographiée. Donc il y a tout ce que Philippe Rekasiewicz a apporté en termes de visualisation, des cartes au sens... diverses, des cartes géographiques, mais pas seulement géographiques, des schémas, des manières de représenter des relations entre des objets, des concepts, par exemple. Et vous avez en plus dû inventer différentes voix, puisque vous alternez les prises de parole, la façon dont ces voix se mélangent avec les images, avec des aspects plus performés encore sur scène, de la musique. Donc une écriture vraiment... dans toutes les dimensions possibles, Karina Coca.
Tout à fait. Et aussi une écriture scénique. Et ce qui me permet de dire que, en fait, ce travail, tel qu'on l'a présenté au Forum des images, grâce à l'invitation d'Élise Tézarek, qui a pris un vrai risque, hein, parce que c'est une salle de 450 places.
Qui est programmatrice au Forum des images.
Qui est programmatrice et directrice du Forum des images. Et, qui a pris ce risque de nous inviter. On n'aurait pas pu le faire sans un travail, un accompagnement.
Avec des designers, vous avez
travaillé. Avec deux artistes, Pénélope de Baudy, Mathieu Lemarié, qui sont artistes, designers, scénographes. Et qui, toute une partie de leur travail, transforment des contenus scientifiques en forme artistique et poétique pour des expositions scientifiques à la Cité des Sciences, etc. Et c'est important à dire parce qu'en fait, on ne peut pas s'improviser complètement.
C'est pas pareil que de faire un cours, quoi.
C'est pas pareil que de faire un cours. Et d'ailleurs, moi, je pensais que ça va, je parlais suffisamment bien. Hein, mais en fait, je parle comme une prof. Et c'est tout à fait désagréable pour des spectateurs. Et donc, voilà, je parle lentement, je hache mes mots pour qu'on puisse prendre des notes. Et donc, voilà,
là, le spectacle, en général, on ne prend pas de notes. C'est pas l'idée. On n'y va pas pour ça. Mais on en sort tout aussi informé, en fait, que d'un cours.
Oui, mais il faut désapprendre quelque chose de l'ordre de la forme.
De la didactique, en fait. C'est autre chose.
Et comprendre comment est-ce qu'elle passe par des formes et par du non-dit. Et donc, là, c'est le travail avec Pénélope de Baudis et Mathieu Lemarié, hein, qui transforme effectivement en carton, en panneau, en dessin, en image, des choses que nous, on explique un petit peu laborieusement, et qui donne, en fait, à la performance, un vrai statut de performance, c'est-à-dire de la créativité, de la poésie.
Et une participation du public aussi.
Et une participation du public.
Ça, c'est une dimension importante. Karine Okaka parlait tout à l'heure de la raison principale qui est finalement à l'initiative, à l'origine de cette envie, qui est ce contraste entre la question et la manière dont on la représente dans l'espace public. Votre livre, Loustassin, donne vraiment à voir ça. C'est-à-dire qu'au fond, rien ne contraste plus que ces gens qui sont à l'ombre de ces centres de rétention et puis ceux qui sont sous les projecteurs de l'actualité sur la question migratoire.
Oui, absolument. Et en fait, les centres de rétention qui sont au cœur des débats publics, enfin pas les centres de rétention justement, mais la lutte contre l'immigration irrégulière est au cœur des débats publics. Alors qu'en fait, quand on regarde un peu, les centres de rétention, ce sont des dispositifs qui sont très coûteux. Ce sont des dispositifs qui ne répondent pas aux objectifs qu'ils se fixent, hein, puisque en France, moins de 40% des personnes enfermées sont expulsées et près de la moitié le sont même au sein de l'Union européenne. Et par ailleurs, ce sont des lieux, comme je le disais, attestés d'abus et d'atteinte aux droits. Donc effectivement, une de mes questions, moi, c'était de comprendre comment est-ce que c'est possible, en fait, que ces lieux tiennent, se maintiennent et se perpétuent malgré tout cela.
Je voudrais faire réagir Karine Okaka à la fin. Je vais spoiler, mais c'est pas grave, de votre livre. Vous écrivez, Loustassin, que vous demandez un jour à l'un des plus hauts gradés du centre de rétention dans lequel vous avez passé le plus de temps, ce qu'il faudrait faire de son point de vue pour éviter les tensions que vous observez. Est-ce qu'il sent un sourire? Il me répond, vous voulez que je vous dise? Mais ça, c'est peut-être pas sûr qu'il faille le noter. La solution, ce serait de supprimer les CRA et de régulariser tout le monde. Après un silence, il se reprend, mais ça, c'est pas rationnel.
Oui, et ça fait écho à un petit extrait qu'on passe dans la performance où, en fait, on voit quelqu'un qui est derrière des caméras de vidéosurveillance, des caméras thermiques et des silhouettes qui s'avancent. On voit des silhouettes d'enfants et d'hommes et de femmes. Et lui dit, ces gens, en fait, ils ne font que fuir la guerre. Ce sont des Syriens, ce sont des Afghans et c'est normal, ils fuient la guerre. Et puis, un silence. Et puis, il rajoute, mais nous, on fait notre travail.
Mais ce mot est terrible. C'est pas rationnel. En fait, il n'y a rien de plus rationnel. Et donc, il faut qu'on fasse le détour, nous, par l'émotionnel, pour arriver à triompher, à faire triompher le rationnel et pas les illusions de la rationalité telles que les avance ce monsieur, par exemple.
Oui, absolument. Et c'est vrai que je pense que le recours aux émotions, c'est aussi une manière, je pense, de faire confiance à l'intelligence des spectateurs, spectatrices, des lecteurs, des lectrices. Et j'espère qu'avec des actions comme les nôtres, qu'il faut peut-être penser aussi comme un grand tout, les mettre bout à bout, des livres, des performances, des podcasts. Voilà, essayer de faire feu de tout bois et lire AOC.
Lire Loustassin, comment les enferme, et aller voir le spectacle de Karine Okaka et Philippe Rekasiewicz, là où murmurent les frontières. Il y a des représentations de prévues. Il va tourner ce spectacle petit à petit. Bon, j'imagine que c'est pas votre métier principal.
Voilà, contrairement à ce que vous avez dit en introduction, donc je ne suis pas devenue performeuse, Philippe Rekasiewicz non plus, mais on a une représentation en Suisse, une en Belgique, et puis une à Paris le 26 mars, mais c'est déjà complet.
Il faut prévenir tous les festivals d'idées, de sciences sociales, etc. Il faut absolument qu'ils mettent à l'affiche votre spectacle. On trouve en tous les cas les références sur la page de La Suite dans les idées, ainsi que celle du livre de Loustassin.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Actualité, pour terminer cette émission, avec une revue, le nouveau numéro, le numéro 54 d'une revue qui existe depuis 1999, Travail, Genre et Société, qui est publiée aussi par les éditions La Découverte. Et une revue, Clotilde Lemarchand, que vous co-dirigez aujourd'hui, dont vous avez aussi co-dirigé le dernier dossier qui m'a intéressé. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Vous êtes sociologue également, professeur à l'Université de Lille. Et avec deux de vos collègues, vous avez dirigé un dossier sur les vieillesses et du point de vue des inégalités en particulier. Mais peut-être avant d'entrer dans le détail de ce dossier, un mot sur cette revue fondée par Margaret Maruani, et ce sera l'occasion de lui rendre hommage aussi.
Oui, merci de lui rendre hommage, oui. La revue voilà, Travail, Genre et Société, c'est une revue scientifique de sciences humaines et sociales qui est pluridisciplinaire et puis avec une perspective internationale, un souci voilà, de comparaison internationale. Et voilà, donc elle a été fondée, comme vous l'avez dit, par Margaret Maruani en 1999. Margaret nous a quittés et décédés en 2022. Et donc, nous la prolongeons. C'est une revue qui est née aussi dans le sillage du MAGE, qui est un groupe de recherche, qui est aussi une association maintenant européenne, qui avait déjà les cahiers du MAGE. Hein. Et donc, dans la foulée, donc dans la suite, nous continuons donc de publier deux numéros de 250 pages par an sur des sujets de société avec une double focale, la question du masculin, du féminin, du genre, des rapports sociaux de sexe, et puis la question du travail. Sous toutes ses formes, bénévolat, travail domestique, informel, et puis le travail plus classique, etc.
Et là, donc, ce nouveau numéro comprend beaucoup de choses, mais un dossier, puisque les numéros sont toujours structurés de cette manière, de façon classique, même si dans l'univers numérique, c'est plus compliqué, et je pense qu'il faut défendre les dossiers, l'idée même de dossier des revues, c'est-à-dire ne pas simplement avoir un report opportuniste aux articles, mais voir le travail éditorial qui est fait par une revue en réunissant des choses qui peuvent paraître extrêmement lointaines les unes les autres, parce que ce dossier vous donne l'occasion d'aller voir des choses qui se passent en Chine, d'autres qui se passent à Cuba, des choses qui concernent la société française. Enfin, il y a une très grande variété de sujets. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir de réunir des textes autour de cette question des inégalités, en particulier genrées, de la vieillesse ou des vieillesses ?
Alors, ça s'est discuté toujours en comité de rédaction. D'ailleurs, il se réunit en ce moment, à l'heure qu'il est. On se réunit une fois par mois, des personnes de disciplines de sciences humaines différentes. Et on décide voilà, de thématiques. Effectivement, on a un bouquet de 5 articles, en général, pour une controverse, on va dire un sujet qui fâche, sur lequel il faut s'entendre et discuter. Et puis, un dossier voilà, de 5 articles également. Et il nous avait paru important aussi, de temps en temps, donc on aborde des questions qui sont peut-être a priori moins proches du travail, mais des questions plus de société. La question du vieillissement, des vieillesses, des hommes, des femmes qui ne vieillissent pas de la même manière, nous avait semblé important parce qu'il y a à la fois toute une mouvance de mouvements sociaux, de mouvements citoyens qui ont fondé par exemple le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Il y a des associations qui promouvent un entre-soi d'âge plus âgé, des potes âgés par exemple.
Il y a une inflation il y a une forme de militant. Alors ça, c'est peut-être pas un effet d'âge, c'est peut-être aussi un effet de génération pour le coup, d'une certaine génération arrivée à un certain âge qui applique à la question de l'âge, des manières de se mobiliser auxquelles elles étaient habituées.
Oui, tout à fait. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi un aspect qu'il faut situer d'un vieillissement de la population. On en parle beaucoup et c'est ça aussi qu'on discute aussi avec notamment un premier article de Lionel Questenbaum qui est démographe et historien à l'INED et qui remet un peu à plat les choses justement. Hein. Vieillissement, ça veut dire quoi? Comment? C'est vrai, voilà, on a 30 000 centenaires aujourd'hui. En France, il y a effectivement des choses qui changent. Voilà, les plus de 80 ans représentent 5% de la société, de l'ensemble de la population française.
Puis ce sont des traits qui vont s'accentuer dans les années à venir. Ça, c'est une des choses dont on est sûr,
c'est certain.
En matière de démographie.
Exactement.
Ou à peu près sûr.
Hein. Donc, on voit un peu le chemin parcouru de la société française, hein, justement, en ce sens-là. Et ce qui nous semblait important, c'était de voir les choses du point de vue de l'expérience. L'expérience de la vieillesse et dans la perspective des inégalités sociales, de classe sociale, de sexe, des contextes nationaux aussi, hein, des migrations également. Et parce que, voilà, pourquoi sous la perspective des inégalités? Ben parce que, comme l'écrit Lionel Questenbaum, n'importe qui ne devient pas centenaire. Et 86% sont des femmes. C'est deux fois plus fréquent chez, pour les diplômés du supérieur par rapport à celles qui sont et ceux qui sont sans diplôme. Et puis aussi, ben, parce que tous et toutes ne partagent pas la même vie, les mêmes conditions de vie. Les hommes centenaires sont beaucoup plus souvent en couple, vivant souvent à domicile, beaucoup plus souvent que ce n'est le cas pour les femmes centenaires. Et donc, on essaye de voir aussi la thématique aussi de ce qu'est le vieillissement en bonne santé. Hein, il y a aussi des tas d'indicateurs là qui montrent que si on prend l'utilisation de l'indicateur espérance de vie en bonne santé, ben, ça donne une toute autre représentation. Hein. Alors, on a des méthodologies diverses, à la fois des articles qui mettent justement qui sont vraiment autour de ces chiffres et qui essaient de montrer très, très finement comment on peut les faire parler. Il y a aussi des entretiens beaucoup plus qualitatifs, il y a aussi beaucoup d'observations. On a aussi une méthodologie là, d'un article qui est vraiment centré sur deux études de cas en durée, de cas individuels, vraiment là, finement présenté. Hein, l'article de Aude Béliard et
Paul c'est à l'autre bout du dossier. Au fond, voilà. D'un côté, il y a un article très quantitatif, la démographie, puis l'autre, il y a deux études de cas vieillir avec des maladies neurodégénératives.
C'est ça. Donc on a, on donne une focale diverse avec tout ce que les sciences sociales nous permettent d'avoir. On a des outils, des méthodologies qui permettent justement d'approcher l'expérience de ce vieillissement.
Et entre les deux, on trouve des articles qui concernent des situations internationales diverses, parce qu'on passe de ces chiffres de la démographie française à un article sur les influenceuses de mode senior en Chine. Ça peut paraître très pointu, mais en fait, on y apprend énormément de choses passionnantes dans cet article.
Eh bien oui, c'est aussi un détour pour parler des politiques sociales, des politiques publiques, hein, qui sont importantes, évidemment, dans tous les pays, depuis des siècles, quelquefois, ou en tout cas des décennies. C'est une manière de le voir, justement, dans ce pays, la Chine. Et puis, c'est une manière de voir aussi l'hétérogénéité des vieillesses, des vieillissements, et notamment de... Il y a, effectivement, ces grandfluencers, hein, qui est un mot valise pour parler de ces influenceurs et ces influenceuses, très, très variés, très hétérogène et qui donne une autre image effectivement de la Chine et qui surfe en même temps sur certaines images d'Épinal aussi d'une culture, d'une certaine tradition, d'une certaine image de tradition. Alors on a là donc un article de Justine Rochaud qui parle des fashion grannies qui montre sur certains réseaux sociaux cette manière de se mettre en scène. Et elles sont très très suivies. Elles sont très très suivies par des millions d'abonnés.
Autre situation internationale qui pose la question des migrations, c'est celles qui restent, ce sont des femmes qui restent à Cuba après, alors qu'elles ont un certain âge, alors que les plus jeunes ont choisi de quitter l'île.
Ah oui, c'est un article effectivement plein de gravité qui rejoint la thématique d'aujourd'hui hein, sur l'émigration, puisque sur l'île de Cuba, il y a, on le sait, hein, des vagues migratoires, des personnes qui quittent Cuba, qui se sont accentuées pour certaines catégories de personnes depuis les années 2000. Et il y a donc des départs même légaux, hein, et qui font que certaines générations sont parties, plus nombreuses, laissant quelquefois leurs propres parents vieillissants et leurs propres jeunes enfants. Donc il y a, pour ces raisons migratoires, un trou dans des générations, dans une société qui valorisait beaucoup le modèle familial de cohabitation intergénérationnelle, peu de politique publique vraiment sur ces âges de la vie du vieillissement. Et donc voilà, ce sont beaucoup de femmes des hommes et des femmes, mais beaucoup de femmes plus vieillissantes qui se retrouvent seules, démunies et isolées dans leur vieillissement.
Alors c'est un article de Blandine Détrémaux qu'on trouve également dans ce dossier, donc quatre articles qui composent ce dossier. Vous disiez tout à l'heure que les numéros sont toujours également construits autour de controverses. Celle qui est au sommaire de ce numéro, c'est une controverse autour de la question des hommes dans les métiers féminisés. Et vous vous demandez dans ce numéro s'il s'agit d'une avancée ou non pour l'égalité. Voilà, c'est le dernier numéro, le numéro 54 de la revue Travail, Genre et Société. On trouve également la référence bibliographique sur la page de l'émission, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay et Sorge Leroy.